Désolé, vous avez manqué un bout. Pour en finir avec ce point, hein, que je vais renommer juste pour l'enregistrement, malheur contre ceux qui ajoutent à la loi, donc ce dont étaient coupables les légalistes. La raison pourquoi c'est important de distinguer entre ce que c'est le légalisme, c'est-à-dire d'ajouter à la loi, et ce que c'est la loi, c'est qu'on est encouragé à obéir la loi. Et que le légalisme est vu comme quelque chose qui va au détriment du chrétien, qui détruit la vie spirituelle dans un sens. Il n'est pas légaliste de demander à ce qu'un homme ne soit pas adultère. Ça, c'est Dieu qui le demande. On ne doit pas commettre l'adultère, c'est un commandement. On ne doit pas vivre dans la débauche du monde, c'est aussi un commandement. On ne doit pas voler. On doit participer au sacrement de l'Église, au baptême, à la Sainte-Cène. Ça, ce sont des commandements. Donc, il faut faire une distinction claire quand on parle de légalisme entre ce que Dieu demande et ce que les hommes ajoutent. Obliger tous les chrétiens à ne jamais écouter la télé, ça, c'est du légalisme. C'est peut-être une application qui est tirée de la parole de Dieu. Puis peut-être que pour vous, c'est quelque chose qui est nécessaire dans votre propre vie pour être sanctifié. Et si c'est le cas, vous êtes encouragé à aller selon votre conscience et à ne pas écouter la télé. Mais ce serait une faute de prendre votre standard et de l'appliquer à tout le reste de l'humanité, parce que Dieu n'a pas dit ça. Donc, j'espère que l'exemple rend clair la différence entre quelque chose qui est du légalisme et quelque chose qui est tout simplement promouvoir la parole de Dieu, la loi de Dieu. Parce qu'on croit que la loi morale est encore, en effet, aujourd'hui. On croit que c'est bien de ne pas commettre le meurtre, que c'est bien de ne pas être adultère, etc., d'honorer Dieu comme le seul vrai Dieu. Donc, il est nécessaire de différencier entre ces deux choses, et preuve étant que le Nouveau Testament nous appelle à faire de la discipline ecclésiale. S'il n'y aurait pas d'application de la loi morale de Dieu, il n'y aurait pas de discipline ecclésiale dans les églises. Le deuxième malheur qui est prononcé sur eux est prononcé contre les rebelles. Évidemment, il parle encore à ces mêmes hommes, à ces mêmes pharisiens légalistes. Mais ce que l'on voit, c'est que ces gens prétendaient honorer leur père, honorer les apôtres, honorer les prophètes qui sont venus avant eux parce qu'ils construisaient leur tombe. Ils prétendent honorer ces gens, mais ils déshonorent leur enseignement. Et c'est ce que Christ leur reproche. Le Reformed Commentary dit ceci: « C'était beaucoup plus facile pour eux de vivre dans le passé en admirant un prophète mort que de vivre pour Dieu en faisant ce que le prophète demandait. Les docteurs en ce temps ont fait une grande démonstration de piété extérieure, mais leur cœur était loin de Dieu. » Il avait les mêmes attitudes pécheresses que leurs pères avant eux et partageait ainsi leur culpabilité. Ils avaient le même style de vie impie que les gens dont les prophètes avaient critiqué tout au long de l'Ancien Testament. Ils étaient coupables d'orgueil, d'hypocrisie, d'injustice. Par conséquent, même pendant qu'ils essayaient d'honorer les prophètes avec leur tombe, ils ont déshonoré leur vie. Dieu expose la désobéissance de ces hommes dans ce qu'ils font. C'est une chose de dire qu'on construit des tombes pour nos prophètes. C'est une autre chose d'obéir à ce que les prophètes sont venus dire. Et à cet égard, ils étaient aussi et même plus coupables, va dire Jésus, que leurs propres pères qui ont désobéi. Et pour illustrer cette... Nous, on perd un peu l'illustration du texte, là, parce qu'on n'a pas l'agencement hébreu du Tanakh. Tanakh qui est comme l'ensemble de l'Ancien Testament, mais agencé de façon comme Israël l'aurait eu. Puis la séquence de livres n'est pas la même. Elle commence par Genèse dans Abel et elle finit par Chronique avec Zacharie. Donc c'est la raison pourquoi il est dit que ce sont Abel et Zacharie comme étant représentant le début et la fin. Donc ce que Jésus est en train de leur dire, c'est que vous déshonorez complètement tous les prophètes en vivant de la façon que vous le faites. Et pourquoi est-ce qu'ils sont encore plus coupables que leur propre père? Ben, il y a un sens dans lequel ce que Jésus leur dit est eschatologique, évidemment, qui fait référence à la croix, mais il y a un sens aussi dans lequel c'est immédiat, dans le sens où la responsabilité augmente avec les années. Chaque génération qui est loin de Dieu est coupable d'entraîner la prochaine génération loin de Dieu. La repentance fait que nous ne sommes pas imposés ou imputés le péché de nos pères. Mais quand il n'y a pas de repentance et que le péché est transmis de père en fils, ce qui nous est dit, c'est que le péché devient encore plus cancérigène dans l'homme. Et on n'a qu'à le voir avec notre société, c'est pas dur à voir. Ces hommes péchaient en connaissance de cause. Leurs pères ont péché en connaissance de cause parce qu'ils avaient les prophètes qu'ils avaient avertis. Mais quand on lit au verset 51, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. C'est eschatologique ou futuriste dans le sens où il parle du meurtre littéral de Jésus. Le sang de Christ va leur être demandé parce que c'est cette génération qui vont mettre à mort Jésus, le prophète, le roi, le prêtre. Ils ont assassiné le Fils de Dieu. Ils étaient donc encore, à ce sens, plus coupables que leurs ancêtres de désobéir à ce que les prophètes avaient annoncé. Eux qui auraient dû reconnaître que Christ, marchant au milieu d'eux, était le Messie attendu qui avait été prophétisé dans l'Ancien Testament. Et finalement, dans les derniers versets, à partir de 52, on voit la dernière malédiction qui est donnée à ces hommes. Et c'est une malédiction qui est faite face aux faux docteurs. Ces gens qui avaient la prétention de connaître la vérité, qui étaient des élites dans leur société, qui étaient des hommes religieux, respectés, ils tenaient les clés de la science, nous dit le texte, c'est-à-dire la connaissance. Ils avaient ce qui était nécessaire pour éduquer les gens et les faire progresser dans leur vie, à être plus sains. Mais ils retenaient captif la connaissance qu'ils avaient. Et même pire, dans le cas des légalistes, ils l'utilisaient pour mettre un fardeau additionnel sur le peuple de Dieu. Ceux qui auraient dû être chargés d'enseigner, de l'idée, de connaître la vérité, de la démontrer, de la vivre, Jésus leur dit qu'ils ne sont même pas eux-mêmes sauvés. Et en plus, ils ont les clés de la connaissance, ils empêchent des gens de l'avoir. C'est terrible. Et c'est exactement une bonne illustration de ce que fait un faux docteur. Tu sais, quand on parle de faux docteur, là, il y en a aujourd'hui dans notre monde. Il y a des gens qui enseignent la Bible, qui ont étudié la Bible, qui ont les clés de la connaissance, mais qui amènent les gens dans un chemin qui n'est pas le bon. Et ils sont malheurs à eux, ils sont coupables. Ils auront à rendre compte devant le trône. En les rejetant, évidemment, Christ rejette leur salut. Il les traite carrément de gens qui ne connaissent pas Dieu, essentiellement. Mais l'attitude des pharisiens et des légalistes qui est repris par Jésus dans ces quelques versets à la fin du chapitre 11, nous démontre que ces hommes avaient rejeté Christ. Ils avaient rejeté le salut, ils avaient rejeté la loi réelle de Dieu. Et bien qu'ils avaient des prétentions de vivre comme des hommes religieux, saints et pieux, ce n'était pas le cas. Ils ne vivaient pas ainsi. Et c'est ce qui nous amène au début dans les versets 1 à 12 du chapitre 12, qui est une espèce de transition. On voit une scène où est-ce qu'on on transitionne tranquillement de cette scène du souper, mais qui enchaîne dans le même thème. Et ce qui nous est donné dans ces versets, c'est le remède à ce qui vient d'être dit, à l'avertissement qui vient d'être fait. C'est le remède à l'hypocrisie qui est donné à ces pharisiens. Et en même temps, une assurance qui est promulguée pour les chrétiens. Donc, lisons le texte dans 12, versets 1 à 12. Sur ces entrefaits, les gens étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns sur les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. » Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez beaucoup plus que des passereaux. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. On voit en début de transition de scène que, on ne sait pas, évidemment, comme je l'ai souvent dit, Luc n'est pas écrit de façon chronologique, donc c'est dur de situer des fois d'où à où il saute, mais Luc fait des liens thématiques la plupart du temps. Et ici, on voit que il se ramasse parmi une foule très nombreuse. Le mot grec qui est employé pour le nombre de la foule est l'équivalent de 10 000 personnes. Donc, c'était une foule d'environ une dizaine de milliers de personnes. Donc, beaucoup de gens, au point tel où est-ce qu'il nous est dit qu'ils se pilaient les uns sur les autres. L'attention est clairement sur Jésus, comme la plupart des endroits où Jésus parlait. Mais à ce moment-ci, Jésus fait quelque chose de spécial qui lui arrive de temps à autre de faire dans les évangiles, mais il tourne son attention particulièrement sur ses disciples. Donc, après avoir parlé aux pharisiens, les avoir avertis, il tourne son attention pour enseigner ses disciples. Évidemment, on doit se mettre en tête que dans le contexte, ils sont en train de marcher vers Jérusalem. Christ s'en va à la croix, littéralement à mourir. Donc, c'était les derniers milles qu'ils avaient à marcher, à suivre leur maître, le rabbi. Et c'était une façon d'enseigner ses disciples. Et même au milieu de la foule, Jésus prend le temps de s'adresser à ses disciples de façon personnelle. On le voit par le langage qui est employé. Il les traite d'amis. La première chose que l'on voit, c'est une exhortation au thème précédent, à se garder de l'hypocrisie. Et pour les avertir, il utilise l'image du levain. La métaphore, évidemment, du levain est employée à plusieurs essais dans le Nouveau Testament. Rarement positif, parfois. Parfois, on va comparer dans Jean, je crois, le royaume de Dieu à du levain pour sa propagation. Mais plus souvent qu'autrement, elle est employée comme une image négative, une image de corruption invisible. Quand on y pense, qu'est-ce que fait le levain quand on le met dans le pain? Il fait lever la pâte tranquillement, de façon imperceptible à l'œil. Quand tu le mets dans le four, le pain se met à gonfler. C'est comme un petit ingrédient de rien qui corrompt le tout, qui s'infiltre partout. Et c'est exactement dans ce sens que Jésus l'utilise. L'hypocrisie est comme un levain, est comme un petit ingrédient hein, qui fait lever toute la pâte, qui corrompt la recette. Il avertit essentiellement ses disciples de ne pas faire et de ne pas être comme ces pharisiens qu'il vient d'avertir. Il les encourage à fuir l'hypocrisie qui corrompt l'âme si facilement. Et pour quelle raison Jésus leur donne-t-il de fuir l'hypocrisie qui est comme un levain, qui est comme une corruption pour la chair? La raison nous vient tout de suite après, au verset 2 et au verset 3. Il n'y a rien qui est caché qui ne doive être découvert, ni rien qui est secret qui ne sera connu. Pensez à la futilité d'essayer de cacher quelque chose à Dieu. Et vous allez vous rendre compte que c'est futile. Personne ne peut se cacher du Créateur. Personne ne peut prétendre être caché de sa propre hypocrisie. Parfois, c'est même partiellement accompli sur terre. Hein? Parfois, il y a des scandales, on apprend qu'un pasteur a été adultère ou que telle personne qu'on avait en haute estime a triché, a abusé, etc. Donc, parfois, cette mise à nu est faite même ici sur terre, mais dans le texte, ultimement, ce vers quoi Jésus avertit ses disciples, c'est que même s'ils s'en sauveraient ici sur terre, ici-bas, ils ne s'en sauveraient pas, ultimement, spirituellement parlant. Dieu connaît leur cœur. C'est en vain que l'hypocrite fait de l'hypocrisie. La seule personne qui trompe, c'est son entourage et lui-même. Donc, Jésus avertit ses disciples de ne pas vivre comme des hypocrites. Et même si on est chrétien, qu'on a l'Esprit Saint, parfois, il y a une tentation, dans certains aspects de nos vies, d'être hypocrite. Parce qu'on est encore charnel et qu'on n'est pas parfait. Jésus avertit ses disciples contre cette tentation. Il les encourage à être vrais, à être sincères, à être des hommes intègres. Pourquoi? Pour ne pas avoir à rougir lors du jugement. Ceux qui pensent échapper au jugement trouvent le moyen de plaire aux hommes par l'hypocrisie si nécessaire. Mais ultimement, ils seront démasqués et humiliés à la lumière du jugement de Dieu. Donc, évidemment, cette parole est eschatologique en sens, ultimement. Romains 2, versets 15 et 16 nous dit: ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rend témoignage et leurs pensées s'accusent et se défendent tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Il existe une seule façon de vivre sur terre et de ne pas avoir à craindre le jugement et la réprimande du roi et de celui qui juge tout. Et c'est de confesser nos péchés et d'avoir le sacrifice de Christ comme étant le nôtre. Le pardon des péchés offert à la croix est la seule chose qui peut nous garder de ce jugement et de l'humiliation que méritent nos péchés. Et détrompez-vous si vous trouvez que c'est rough, que c'est dur. Vous méritez cette humiliation pour avoir offensé celui qui vous a créé. Romain reprend l'image d'un vase, comme si le vase disait à son potier: hey, je prends la place, je suis mon maître, je suis Dieu, je décide et je ne t'honore plus. Ben, ça se peut que le potier fasse paf, puis que le vase il casse. Est-ce que quelqu'un va blâmer le potier? Dire que le potier n'avait pas le droit, qu'il était méchant? Non. Proverbe 28, 13 nous dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue les délaisse et obtient miséricorde. » Ceux qui s'humilient ici-bas n'auront pas à craindre la réprimande du jugement. R.C. Sproul dit ceci, « Nous avons tous des secrets qui seraient profondément embarrassants pour les autres de connaître. L'idée de mettre en lumière nos péchés secrets et que nos faiblesses soient manifestées publiquement est terrifiante pour nous. Malgré tout, il y a un jour établi où Dieu dit que la vérité sera révélée. Non seulement nos péchés secrets seront manifestés, mais aussi nos vertus secrètes. Si je ne savais pas que ce jour-là, ma nudité serait couverte par la justice de Christ, cela me détruirait d'avoir à y faire face. » Une fois que nous aurons confessé nos péchés, nous serons prêts à prendre fermement position pour Christ, comme les disciples l'ont fait, comme Jésus est en train de former ses disciples à ce moment-là. Et on voit au verset 4 et 5 que le remède contre l'hypocrisie est directement lié à la crainte de Dieu. Comment éviter cette humiliation? Et si on est pharisien à ce moment-là et qu'on écoutait Jésus, comment ne pas faire face à ce jugement? Évidemment, eschatologiquement, c'était par le sacrifice qu'il allait faire à la croix, mais plus précisément, en craignant Dieu. Par leur attitude, les pharisiens, les légalistes, les scribes, les docteurs de la loi, démontraient qu'ils savaient beaucoup de choses sur le Tanakh, sur l'Ancien Testament, mais qu'ils ne craignaient pas Dieu. Connaître des choses ne fait pas de nous un chrétien. Le remède contre l'hypocrisie que Jésus prescrit est la crainte de Dieu. Évidemment, ici, la crainte de Dieu, dans le texte, va être liée au jugement final. Et vous savez pourquoi vous devez craindre Dieu? Parce que lui seul a l'autorité et la sainteté nécessaire pour envoyer le pécheur en enfer de façon juste. Personne ne pourra dire à Dieu, c'était injuste ce que tu as fait à cette personne-là. Si nous, on jugeait des gens puis on les envoyait en enfer, la personne pourrait dire, non, c'était injuste. Tu ne m'as pas vraiment compris. Ce n'est pas ça que je voulais dire. Ce n'est pas comme ça que j'ai agi. Mon cœur était à bonne place. Mais on ne peut pas faire ça avec Dieu. Dieu qui connaît tout, qui connaît toutes nos pensées, tout notre être, qui nous a créés. L'hypocrite devrait craindre Dieu au lieu des hommes. Ironiquement, c'est souvent l'envers. Les gens qui sont hypocrites de nature vont avoir une peur des hommes, vont vouloir vivre pour plaire à ces gens qui sont alentour de eux, en ignorant complètement la crainte qu'ils devraient avoir de Dieu. Mais Dieu est ce juste juge qui voit tout péché. Dieu a l'autorité nécessaire pour juger ce péché parce qu'il a une perfection morale. Et Dieu a la puissance nécessaire pour juger le péché, parce qu'il peut envoyer le pécheur en enfer. Ce qui fait qu'on devrait le craindre. R.C. Sproul encore nous dit, « Cela ne signifie pas que nous devrions trembler de peur dans la présence de Dieu ou de penser qu'il est là pour nous piéger. » La peur que nous devrions avoir de Dieu est une peur de l'offenser, une peur née de la crainte et de la révérence et de l'humilité devant sa majesté. Hein? Ce n'est pas une crainte qui est servile dans le sens où on a peur que le maître nous écrase. C'est une crainte révérentielle, un respect ultime au Créateur. La Bible décrit le fou comme celui qui ne craint pas Dieu. Celui qui n'est pas sage et celui qui ne craint pas Dieu. Dieu qui a la puissance de tuer l'homme, de détruire l'homme. Connaître la puissance de Dieu et la sagesse du chrétien. Et de se mettre en tête la crainte de Dieu. C'est une bonne façon pour nous, en tant que chrétiens, de se garder intègre dans notre marche. Évidemment, on n'est pas parfait, on va tomber, parfois on va être hypocrite. Mais étant donné qu'on a Christ, on peut se repentir, venir à la croix et recommencer. Mais on doit aspirer à vivre comme des gens qui sont intègres. Et non pas comme des gens qui cherchent seulement à plaire aux autres. Et c'est là que viennent les versets 6 à 8 qui nous donnent une assurance à nous qui sommes croyants. Est-ce qu'il y a une contradiction entre le verset 5 et les versets 6 et 7? Quand on le lit rapidement, on pourrait se dire que oui. Hein? Dans les versets juste avant, il nous dit « craignez Dieu ». Et là, après ça, il nous dit « ben, vous allez bien plus, ne craignez pas Dieu ». Dans les versets précédents, il parle aux hypocrites. Il parle aux gens qui doivent craindre Dieu. Et après, il détourne son attention. Il va nous parler de cette crainte respectueuse qui est balancée avec l'assurance du pardon. Oui, on doit craindre Dieu de façon révérencieuse, mais nous qui sommes croyants, nous qui sommes les disciples du Christ, nous avons cette confiance, cette assurance que par la mort de Christ, nos vies qui valent bien, bien plus que celles d'un passereau vont être exemptées. C'est mon petit côté anglophone qui sort des fois. Exempt. C'est un appel à avoir la foi en Dieu qui prend soin. Donc oui, on doit craindre Dieu, mais on doit avoir assurance que Dieu prend soin de nous. Jésus nous donne une promesse. Il dit que ceux qui ont la foi en lui, tous ceux qui se déclareront pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera devant eux, devant les anges. C'est quand même une belle promesse qui nous apporte à l'assurance. Celui qui est intègre et que malgré la chute et le péché marche de façon intègre, se repent, recommence. Celui qui a reçu Christ pour le pardon de ses péchés, lui peut être dans l'assurance. Lui sait la valeur que sa vie a et sait comment Christ, Dieu, prend soin de lui. On voit toute la pleine valeur que Dieu donne à l'être humain dans ce verset 7. Ne craignez donc point, vous valez beaucoup plus que des passereaux. Dans Jean 3,16, il dit « car Dieu a tant aimé le monde ». Le monde, dans Jean 3,16, est en cosmos, c'est dans comme sa création au sens large, mais l'idée est la même, que Christ a aimé l'humanité, a aimé l'homme, à un point tel d'envoyer son Fils unique, Jésus-Christ. Donc, ceux qui reçoivent Christ peuvent avoir cette assurance, malgré la crainte révérentielle que l'on a pour Dieu. Et vient au verset 9 cet avertissement contre le rejet de Christ et du Saint-Esprit. Jésus fait un avertissement général au verset 9. Il dit que celui qui va le renier devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. C'est quand même sévère comme jugement. Sévère mais juste, dira-t-on. Mais imaginez-vous la scène hypothétique, mais pas tant, où un inconverti meurt. Il arrive devant le trône du jugement, en la présence de myriades d'anges, et ses péchés sont dévoilés. Déjà, ça commence mal. On voit que vous avez renié Christ dans votre vie. On voit tout ce que vous avez fait qui est humiliant. Et là, vous réalisez devant le trône du jugement qu'il y a un Dieu et que vous l'avez renié, bafoué toute votre vie et qu'il est trop tard pour changer d'idée. C'est ce que des milliers de gens vont vivre. Et c'est la tragédie duquel nous parle le Nouveau Testament. Maintenant, Christ vous renie devant le Père et les anges. Il dit « Je t'ai jamais connu ». Parce que tu es sans avocat et tu es sans pardon. La seule différence avec nous qui vit la même situation, c'est que Christ va être à nos côtés, va prendre notre place, va être notre avocat, il va plaider notre cause. Et c'est pour ça qu'on a de l'assurance et du réconfort. Parce qu'on sait que le jugement, la dette est payée à notre place. Et c'est l'image que Christ nous donne dans ce passage. Des gens qui auront ou non à rougir devant le trône du jugement. Ce qui nous amène, finalement, je vais finir avec ça, je m'étends un peu, mais ce qui nous amène au dernier passage, évidemment, qui est, je dirais pas le plus controversé, mais le plus peut-être difficile à éplucher, et celui qui a fait couler peut-être le plus d'encre au travers les années, hein, ce fameux passage sur le blasphème du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le fameux péché contre le Saint-Esprit est? Pourquoi est-ce qu'il est impardonnable? Hein? Deux questions quand même assez importantes à répondre. Eh bien, dépendamment de quel théologien vous lisez, il y a plusieurs positions sur ce blasphème du Saint-Esprit. C'est un texte un peu difficile à interpréter, surtout dans Luc, à cause de la séquence que Luc choisit. J'avais un ami, c'est encore un ami, mais je le nommerai pas. J'ai un ami qui, tôt dans sa vie chrétienne, à cause qu'il avait vécu une vie très rocambolesque avant de venir à Christ, était toujours très inquiet d'avoir blasphémé le Saint-Esprit dans sa vie passée. Et ça venait constamment le hanter, c'est une question qui n'était pas capable de répondre, et bon, j'étais jeune et un peu ignorant à ce moment-là, incapable de répondre à sa question. Mais ça l'a tourmenté longtemps pendant sa vie, et je connais plusieurs chrétiens qui ont eu ces mêmes raisonnements, à savoir, mais est-ce que j'ai commis ce péché-là? C'est inquiétant. Plusieurs théologiens croient que ce blasphème est simplement l'endurcissement du cœur contre l'œuvre du Saint-Esprit au travers le temps et la vie normale. Donc, si on rejette l'Esprit-Saint jusqu'à sa mort, inévitablement, c'est impossible d'être sauvé puisqu'on rejette le Saint-Esprit jusqu'à sa mort. C'est valide dans le sens où c'est vrai. L'argument est vrai. Mais ce n'est pas, selon moi, une explication légitime nécessairement du texte et du contexte dans lequel c'est donné. Ça ne l'explique pas pleinement. Ça ne l'explique pas pourquoi Jésus fait la distinction entre le blasphème contre lui-même, qui dit être pardonnable, et le blasphème contre l'Esprit, qui dit être impardonnable. Et là, beaucoup de gens vont, dans la théologie, se sont mis à dire, bon, c'est parce qu'il y a une hiérarchie dans la Trinité. Bon, je ne crois pas qu'il faut aller là non plus. Le contexte de la déclaration de Jésus est très important et va nous aider à répondre adéquatement à ce que c'est. Le contexte est celui-ci. Les pharisiens accusent Jésus de guérir un malade par la puissance de Satan. Donc, si on se rappelle dans le contexte plus général, c'est pas évident dans Luc, parce que Luc, à cause qu'il fait les choses thématiques, est pas mis nécessairement proche de ce texte-là. Mais dans tous les autres évangiles, ces deux textes-là sont côte à côte. Donc, les pharisiens voient Jésus guérir un malade et le traitent de Béelzébul. Lui disent qu'il guérit les malades par la puissance de Satan. L'accuse essentiellement d'être Satan lui-même. Le passage de Marc 3, versets 28 à 30 dit « Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront profanés. Mais quiconque blasphémera contre l'Esprit Saint, n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait « Il est possédé d'un esprit impur. » Donc, déjà, on voit que Marc fait le rapprochement avec ces deux contextes. Il reconnaissait en Jésus la puissance de Dieu qui guérit des malades. Ils étaient témoins oculairement de ces miracles. Et de façon malicieuse et intentionnelle, il attribue à Jésus-Christ, le Messie, le titre de Satan. Norval Geldenhuis, un commentateur, décrit ce péché ainsi. C'est un blasphème conscient, volontaire et intentionnel de la révélation clairement reconnue de la grâce de Dieu en Christ par le Saint-Esprit. Une révélation qui, néanmoins, par haine et hostilité, est attribuée au diable. Bavinck en chérit dans ce même sens, il dit « Un péché contre l'Évangile dans la plus claire révélation, non pas en doutant ou simplement en niant la vérité, mais dans un déni qui va à l'encontre de la conviction de l'intellect contre l'illumination de la conscience, contre les préceptes du cœur, dans une imputation consciente, volontaire et intentionnelle à l'influence et à l'action de Satan, de ce qui est clairement reconnu comme l'œuvre de Dieu. » Dans une déclaration délibérée que le Saint-Esprit est l'esprit de l'abîme, que la vérité est un mensonge et que Christ est Satan lui-même. Donc, les pharisiens, à ce moment-là, attribuent essentiellement à Christ l'opposé de ce qu'il est. Ils le traitent de Satan et lui attribuent les œuvres de Satan. Et de façon consciente, ils le font. Ils blasphèment ainsi. Donc, le blasphème en question, selon moi, serait donc d'intentionnellement attribuer l'œuvre de l'Esprit-Saint à Satan, après avoir consciemment vu et attesté des miracles de ses propres yeux. Donc, ces Juifs, ces gens qui étaient dans la foule, et qui avaient été témoins de ce miracle et qui ont crié « Béelzébul » à Christ, ont commis ce péché impardonnable. Calvin nous dit, « Déjà, nous commençons à percevoir que la raison pour laquelle le blasphème contre l'Esprit dépasse les autres péchés n'est pas que l'Esprit est plus élevé que Christ en stature, mais que ceux qui se rebellent, après que la puissance de Dieu a été révélée, ne peuvent être excusés sur la base de l'ignorance. » Ils étaient inexcusables. Ils avaient vu devant eux le miracle, la puissance de Dieu, l'avaient reconnu et s'étaient tournés de bord en disant « c'est Satan ». Donc, je ne vous ferai pas la liste, mais plusieurs théologiens à travers l'histoire de l'Église ont adhéré à cette position. Je ne l'invente pas. Soyez donc sans crainte cet après-midi. Vous n'allez pas commettre le péché impardonnable. Peu importe comment on interprète ce passage, comme Daniel L. Aiken le dit, une chose est claire, quiconque se préoccupe de ce péché n'a rien à craindre. Car une telle préoccupation témoigne d'une sensibilité, d'une ouverture à l'Esprit Saint que ceux qui ont péché de cette manière ne possèdent pas. Donc, je crois qu'en prenant compte du contexte historique, ce péché est historiquement spécifique au temps de l'incarnation de Jésus. Ce serait donc impossible, si mon interprétation est juste, de commettre ce péché nous-mêmes aujourd'hui. Si aujourd'hui les gens se rebellent, blasphèment contre Christ, contre le Saint-Esprit dans un certain sens, c'est par inconscience et par insouciance qu'ils le font. Et non pas nécessairement comme des témoins oculaires d'un miracle en connaissance de cause. Nolan dit que le blasphème contre l'Esprit ne décrit pas seulement un discours blasphématoire, mais le déni ou le rejet de l'intervention salvifique manifeste de Dieu au nom de son peuple. Chose certaine, Dieu peut pardonner tout péché ici-bas, aussi répugnant qu'il soit les uns des autres, ce qu'on voit dans nombreux discours que Christ fait, les nombreux appels à la repentance. Ce péché concernait sept générations spécifiques. Et probablement une des raisons que le sang des prophètes va leur être redevable, en plus grande partie celui de Christ, à la croix. Parce qu'eux, ils auront blasphémé en connaissance de cause. Ils auront vu le Messie en connaissance de cause. Ils auront été jusqu'à le crucifier. Donc, c'est à eux que s'adresse cet avertissement du péché impardonnable. Et je vais conclure avec ceci parce que là, je m'étends. La bonne nouvelle et ce que l'on voit vers la fin des versets, c'est que Dieu équipe ses apôtres. Évidemment, dans le contexte textuel, on parle des 12 apôtres. Mais si on élargit pour faire une exégèse qui nous concerne, Dieu nous équipe aussi par ses paroles. Il nous fortifie quand nous devons faire face à la persécution du monde. Parce que tout comme les apôtres, évidemment, pourquoi Jésus les avertit de ne pas se soucier, de ne pas se défendre, de ne pas se soucier de ce qu'ils vont dire devant les magistrats, devant les synagogues, qui étaient les places où est-ce que les jugements culturels étaient faits, hein, l'équivalent de nos juges, nos cours, etc. Christ savait très bien ce qu'allait être le ministère des apôtres. Il allait être comme sa vie à lui. Et donc, il les prépare dans ce sens. Est-ce qu'il y a une application pour nous et gens aujourd'hui? Oui, certainement. En fait, quand j'ai lu ce passage, je n'ai pu faire autrement que d'y voir un certain clin d'œil contextuel. J'imagine que nous aussi, bientôt, on va être traînés devant les cours suprêmes et et nos réputations vont être traînées dans la boîte, peut-être dans les médias, je ne sais pas. Ce ne sera peut-être pas l'équivalent de la synagogue juive, mais ça va être l'équivalent culturel et de notre monde et de notre contexte aujourd'hui. Et Dieu nous appelle à ne pas tellement se soucier de ces choses. Il nous appelle à se soucier d'une chose, d'être intègre et de marcher selon ses voies. C'est sûr qu'on ne veut pas avoir une mauvaise réputation en tant que chrétien. On aimerait mieux l'éviter. Mais Christ lui-même et les 12 apôtres n'ont pas eu une bonne réputation auprès du monde dans lequel ils vivaient, là. Il faut s'attendre à ce qu'un jour, ces mêmes choses deviennent vérité pour nous. Et qu'on va devoir, par l'Esprit Saint, nous aussi vivre de la foi qui nous dit de ne pas se soucier de comment on va se défendre. C'est devenu une réalité très rapidement pour les 12 apôtres. Ça sera probablement une réalité pour nous, pour nos enfants, à voir comment tout se déroule dans notre monde aujourd'hui. Je pense que c'est une question de temps avant qu'il y ait une persécution massive du christianisme en Amérique du Nord. J'espère que j'ai tort. On me dira peut-être que je suis alarmiste, mais je ne vois pas les événements s'améliorer d'ici demain. Il ne faut pas s'inquiéter pour nos propres vies. Il ne faut pas s'inquiéter pour notre défense. Il ne faut pas s'inquiéter d'être abandonné de Dieu parce qu'on a l'assurance qu'il reste avec nous. Il ne faut pas s'inquiéter d'être rejeté du monde parce qu'ils ont rejeté Christ. Il faut se soucier de proclamer l'Évangile, d'obéir Dieu avant tout et de craindre Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse et la crainte de Dieu dans le texte qu'on a lu et le remède contre une vie hypocrite. Donc, si vous voulez vivre comme des gens intègres, cultivez la crainte de Dieu dans vos vies. Prions. Merci Seigneur pour ce passage, merci pour cet évangile de Saint-Luc qui nous apprend que nous sommes très imparfaits à bien des égards. Donne-nous de ne pas être hypocrites. Donne-nous de ne pas être des gens légalistes. De ne pas imposer un fardeau indu sur les gens. Donne-nous d'honorer ta loi, Seigneur, comme des préceptes parfaits, bons pour l'humanité. Donne-nous de l'honorer, de l'obéir. Et donne-nous, Seigneur, par-dessus tout, de te craindre, toi le Créateur, toi le juste juge. Nous te louons, Seigneur, pour cette Église, pour ce corps de Christ ici à Montréal. Merci pour ton Église qui est assemblée aujourd'hui, Seigneur, partout dans le monde. Merci parce que tu nous protèges encore, tu nous donnes la paix, tu nous protèges, Seigneur, des persécutions. Mais prépare nos cœurs comme tu préparais les 12 apôtres. Prépare-nous, Seigneur, le jour où ça viendra, que nous puissions être intègres et ne pas broncher. Que nous soyons préparés à dire « Christ seul » et notre salut. Amen.